savoir, Emmanuel Bastide.
Bonjour et bienvenue à l'École des Savoirs. Nous sommes ensemble pour une heure, avec une pause pour le journal. Au menu, un reportage sur des enfants autistes dans le sud de la France. Ce sera en deuxième partie. Comment apprendre lorsque l'on est autiste? Notre reporter a suivi le travail très patient d'éducateurs spécialisés dans un institut où les enfants sont pensionnaires. Mais tout de suite, nous sommes avec les chroniqueuses de l'École des Savoirs. Amélie Niard nous parlera de manuels scolaires à prix coûtant pour l'Afrique et sur le continent. Encore un petit projet, mais très intéressant. Et avec Mathilde Landier, nous causerons formation des filles et des femmes au Sénégal. Et puis, j'allais oublier l'essentiel, vous avez la parole, bien sûr, dans l'émission, surtout pendant l'été, étudiants en vacances ou profs au repos. Parlez-nous de vous pour passer dans l'émission. Mais il vous suffit, c'est très simple, de nous envoyer un message électronique, école@rfi.fr. Bienvenue chez vous, c'est l'École des Savoirs. Les infos pratiques de l'éducation. Bonjour Amélie Niard.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous allez nous aider à presque remplir les cartables en prévision de la rentrée scolaire. Vous nous faites découvrir une association française qui s'appelle Manuel Sans Frontières et qui édite et qui fournit des manuels scolaires à des écoles en Afrique. Et c'est vrai que ce qui manque le plus dans les salles de classe dans les écoles africaines, ce sont les manuels scolaires précisément.
Oui, effectivement. Alors c'est un petit groupe de 4 amis, dont 3 professeurs du sud de la France, qui a créé cette association il y a 6 ans. Ils étaient en voyage au Burkina Faso et ils ont rencontré Sylvain Nongirma, qui est aujourd'hui le coordinateur local de l'association. Et puis en visitant l'école de son village, ils se sont rendus compte que les professeurs utilisaient des manuels français des années 70, donc évidemment complètement périmés.
Et ils ont... Quand il y en a, hein.
Oui, et ils ont également réalisé que ces instituteurs n'avaient pas tous reçu une formation spécifique, certains n'avaient même pas le bac, et qu'ils étaient parfois complètement démunis face aux élèves, ils ne savaient même pas comment leur faire cours. Donc au départ, c'est pour aider ces professeurs dans ce village que l'association a été créée.
Alors Manuel Sans Frontières produit aujourd'hui des manuels qui sont spécialement conçus pour les pays en développement. On est complètement là à l'opposé de ce qu'on a pu voir par le passé, de dons de livres tout à fait inadaptés venus d'Europe.
Oui, c'est vrai qu'avant, il y avait pas mal d'associations qui envoyaient des manuels récupérés dans des écoles en France. Mmh. Évidemment, ces livres finalement ne servaient strictement à rien parce qu'ils ne sont pas du tout adaptés aux réalités locales. Il y a des problèmes de vocabulaire, des images qui font beaucoup trop référence aux sociétés occidentales, ce genre de choses. Mais les fondateurs de Manuels Sans Frontières, ils étaient conscients de ce problème, donc ils ont décidé de faire autrement. Ils travaillent en collaboration directe avec des écoles du Burkina Faso, principalement au Burkina d'ailleurs, mais aussi au Mali, au Sénégal, en RDC, en Algérie et au Maroc. Et surtout, ils travaillent main dans la main avec les professeurs locaux. Donc par exemple, un professeur bénévole français va rédiger un manuel de maths. Il envoie la première version de son manuel aux professeurs des pays partenaires.
Et qui corrigent.
Ils vont corriger le manuel, ils vont éventuellement demander des modifications, changer des mots, changer des exercices. Alors, il y a aussi certains professeurs africains qui sont en train, en ce moment, de rédiger des manuels.
Et de concevoir eux-mêmes les manuels.
Voilà, c'est directement. C'est ce qui se met en place progressivement. Et aujourd'hui, au total, il y a une bonne dizaine de manuels qui sont disponibles en maths, en français, en informatique ou en physique, et au niveau primaire, collège et lycée.
C'est un petit projet, mais un projet qui est promis, à mon avis, à un bon avenir. Manuel Sans Frontières, qui fournit des livres à une vingtaine d'écoles de 5 pays africains, dont 2 pays du Maghreb, Algérie, Maroc. Sinon, on le rappelle, il y a la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso. C'est une toute petite association qui n'a pas beaucoup de moyens.
Ouais, et ce qui coûte très cher, c'est le transport des manuels. Donc pour limiter leur poids, ils ont eu des idées assez ingénieuses. Donc ce sont des manuels au format A4 qui sont imprimés dans un papier basique. Ils ne font jamais plus d'une trentaine de pages, ils sont imprimés recto verso, et surtout il n'y a pas de couverture rigide, donc ça limite le poids, mais c'est quand même beaucoup trop cher de les envoyer, donc l'idéal c'est vraiment d'imprimer les manuels sur place.
Et là il y a le problème d'imprimerie sur place.
Voilà, parce que Manuels Sans Frontières a contacté des éditeurs locaux, mais ils leur proposent toujours des devis avec des montants assez incroyables, ils se disent, une ONG française, ils vont avoir les moyens. Mais non, ils n'ont pas les moyens, donc ils ont préféré créer une espèce de micro-imprimerie au Burkina Faso. Donc le coordinateur local, Sylvain Nongirma, a reçu une imprimante laser et à la demande des écoles, il imprime des manuels et il les apporte dans les écoles donc de la région de Ouagadougou.
Alors, chaque... Et là, ça revient à combien le manuel? Alors, quand c'est imprimé sur place,
quand c'est imprimé sur place au Burkina, chaque manuel revient à un peu moins d'un euro. Donc, ça, 650 francs CFA.
Formidable. 650 francs CFA, c'est pour un manuel qui a été pratiquement conçu sur place et fabriqué sur place grâce à une micro-imprimerie. Et pour ceux qui ne sont pas au Burkina Faso, qui sont dans les autres pays de la zone?
Alors, ce qui est bien, c'est que tous les manuels de l'association sont disponibles gratuitement sur son site internet. Il suffit de les télécharger et de les imprimer. Puis ensuite, on peut faire des photocopies pour fournir un manuel à toute la classe.
Ah oui, donc n'importe qui peut se procurer le manuel, virtuellement.
Bah moi, je les ai consultés, les manuels. Ouais. J'ai regardé comment ils étaient faits.
Et après, on les imprime sur place.
On les imprime, on les distribue. Ou on peut en imprimer, je sais pas, un pour deux élèves si on n'a pas assez de budget. Alors, on peut aussi déposer une demande. Quand on est directeur d'école, par exemple, on peut déposer une demande à Manuels sans frontières pour qu'ils vous envoient des livres. Alors, ils vont vous envoyer les coordinateurs locaux pour vérifier votre sérieux, votre fiabilité, puisqu'ils ont quand même déjà reçu des demandes pour des écoles fictives ou pour des associations fantômes. Mais ceci dit, ils ont vraiment peu de moyens. Donc, le directeur de l'association m'a confié que maintenant, ils essaient de privilégier les partenariats dans la création de micro-imprimeries. C'est la solution vraiment la plus économique, qui fonctionne le mieux. Mais pour ça, il faut quand même avoir au moins une personne disponible pour gérer l'impression et la distribution des manuels toute l'année.
On lance un appel.
Donc, si vous êtes prêt à vous engager, si vous êtes prêt aussi à collecter un petit capital de départ, je vous conseille de contacter Manuels sans frontières pour essayer de monter un partenariat, qui sait.
Des manuels scolaires libres de droit et adaptés aux programmes scolaires africains. C'est avec l'association Manuels sans frontières, www.manuels-sans-frontières.org. Merci Amélie. Bonjour Mathilde Landier.
Bonjour Emmanuel.
Aujourd'hui, nous soufflons des bougies. 40 ans. C'est pas vous?
Non, pas tout à fait. Bientôt, pas encore.
La Fédération internationale des professeurs de français fête ses 40 ans cette année. 40 années à fédérer quelques 80 000 professeurs de français, quand même, dans le monde, dans 130 pays, très exactement. Alors, on le sait, la FIPF, donc cette Fédération de professeurs de français, organise beaucoup de congrès, beaucoup de colloques, soutient des associations. Ça n'a pas l'air très concret, vu de loin.
Mais si on regarde de près, c'est beaucoup plus concret que ça. Il y a notamment des projets de terrain très concrets. Et c'est le cas du réseau des professeurs de français pour l'éducation des filles et la formation des femmes en Afrique. Alors, on appelle le projet FA. Et c'est un réseau de professeurs de français qui est actif dans le développement local en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. Un jeune réseau qui est en train de se mettre en place. À terme, la finalité, c'est d'améliorer la situation des filles grâce à une plus grande scolarisation et la condition des femmes en général.
Et comment ce réseau aide ces jeunes filles?
Alors, au niveau des femmes, déjà, dans un premier temps, par exemple, ils vont les aider à trouver de petits métiers ou bien à se professionnaliser. Alors, dans le cas des femmes qui fabriquent des objets, par exemple, le réseau va les aider à trouver des marchés pour les vendre. En fait, le but, c'est vraiment que ces femmes quittent le domaine de l'informel pour se structurer et puis être reconnues légalement.
Oui, d'avoir un emploi plus stable, moins précaire. Pour l'éducation des jeunes filles, on imagine que là aussi, y a pas mal de choses à faire, même au Sénégal.
Oui, au Sénégal, effectivement. Alors, ce réseau FA essaye d'être attentif et de repérer sur le terrain les situations délicates, en fait, qui pourraient mettre en péril la scolarisation des jeunes filles. Et c'est là que les professeurs de français vont pouvoir jouer un rôle important et servir de relais, puisque ce sont eux qui sont dans la classe, au plus près des jeunes filles, dans leur quotidien, et qui vont pouvoir signaler des cas sensibles, comme nous l'explique André Marédiagne, la coordinatrice de ce réseau.
Dans la région de Nioro, vers Kaolack, mon réseau a découvert des filles qui faisaient 6 km à pied chaque jour pour venir à l'école. Et une fois qu'elles rentrent chez elles, elles n'ont pas d'électricité, elles doivent apprendre leurs leçons à la bougie des chandelles. Donc il faudrait qu'on leur achète des chandelles. Quand elles viennent là où elles sont au collège, elles ne mangent pas à midi. Il y a beaucoup d'enfants qui mangent des cacahuètes à midi. Et comment voulez-vous qu'après midi, elles suivent les cours en classe? Et ces filles-là peuvent être des proies. Elles peuvent se livrer à la prostitution. Mais si on les encadre, si le réseau sait que ce sont des pupilles, si le réseau arrive à donner des bourses, de petits pécules, nous pensons que nous aurons aidé à l'amélioration de la condition de ces filles.
André Marie Diagne du réseau donc des professeurs FA, donc ce réseau qui soutient les filles au Sénégal. Il n'y a pas que l'aide matérielle, Mathilde.
Non, il y a aussi, ils organisent aussi beaucoup d'événements qu'on pourrait qualifier de coups de poing en fait pour sensibiliser les populations. Alors par exemple, ils priment les meilleurs élèves filles à l'entrée en sixième en offrant des livres et des dictionnaires. Idem pour le bac, pour encourager vraiment les filles à bien travailler. Et puis les profs sont présents dans les écoles pour informer les jeunes filles et surtout ils vont à la rencontre rencontre des familles.
On imagine que si les jeunes filles ne sont pas suffisamment scolarisées, ça n'est pas seulement leur choix, mais aussi, bien sûr, du fait des parents.
Oui, c'est pour ça qu'en fait, ces membres du réseau vont discuter avec les parents et surtout avec les mères. Vous savez qu'au Sénégal, il y a encore beaucoup de mariages forcés qui ont souvent lieu à l'initiative du père. Donc certaines jeunes filles arrêtent l'école pour aller vivre avec leur mari. Donc le but, c'est d'essayer de convaincre les mères en leur expliquant que leur fille pourra davantage les aider si elle a une qualification et un petit métier plutôt que si elle reste analphabète.
Ce qui n'empêche pas de se marier plus tard.
Non, on est d'accord.
Il ne s'agit pas de sacrifier à la tradition.
On n'empêche pas le mariage. Mais c'est vrai qu'André Marédiagne m'expliquait que lorsque les parents sont eux-mêmes analphabètes, eh bien, à ce moment-là, il est parfois très difficile de les convaincre. Donc vraiment, lever des obstacles socioculturels comme le mariage forcé, cela fait aussi partie des priorités de ce réseau.
On va rappeler deux chiffres pour terminer, Mathilde. 44% des filles seulement accèdent à l'enseignement secondaire au Sénégal et 5% parviennent à l'université. Pour se renseigner sur ce réseau sénégalais d'aide à la scolarisation des filles et puis d'aide aux femmes, le mieux c'est d'aller sur notre page, l'École des Savoirs. Vous allez sur le site de RFI, www.rfi.fr, et ensuite vous cliquez sur l'École des Savoirs. Chez vous, pour nous en parler, il vous suffit de nous envoyer un message électronique. Notre adresse école@rfi.fr. Surtout, n'oubliez pas de nous laisser un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre. Nous sommes en ligne avec Paul à Lomé, au Togo. Bonjour Paul.
Bonjour.
Vous êtes dans les faubourgs de Lomé précisément, non ?
Oui, je suis attribué une vie secondaire et c'est à temps de mettre de l'aimer.
Alors, vous n'êtes ni enseignant, Paul, ni étudiant, et pourtant vous travaillez à améliorer l'éducation au Togo.
C'est ça. Mais nous sommes une ONG qui s'appelle le réseau Caleb Togo, la convergence des alternatives de l'éducation pour le développement au Togo. Nous sommes basés à Chevier, à 30 km de Lomé. Notre réseau défend la qualité de l'école de base et une meilleure qualité de l'éducation. Alors, le chemin faisant, nous avons obtenu la gratuité le 1er octobre 2008.
Alors, en ce moment, les écoles sont fermées, hein, c'est les vacances, mais les familles pensent déjà à la rentrée. Quels sont les sujets dont on parle? Puisque l'école est gratuite depuis quelques mois maintenant, l'école primaire au Togo.
Nous avons beaucoup de difficultés, notamment au niveau des parents. Et l'année dernière, quand on a promulgué la gratuité de l'école de base, il y a eu beaucoup de parents qui ont ramener leurs enfants à l'école, qui les ont retirés des écoles privées, puisque l'écolage n'y est plus. Mais malheureusement, les enseignants aussi s'étaient déterminés et avaient limité le nombre pour les classes. Bon, ce qui fait que beaucoup d'enfants se sont encore retournés dans les écoles privées. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ils sont restés encore à la maison. Vous voyez? Donc, les enfants aussi ont beaucoup de difficultés parce que on les a amenés dans des écoles officielles qui sont un peu éloignées et des lieux de résidence. Et toute l'année durant, et ça a été vraiment un travail pénible au niveau de la marche pour ces enfants, si beaucoup de qui sont tombés malades.
Oui, en somme, c'est toute une désorganisation dont vous nous parlez.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un avertissement avant la promulgation de la gratuité de l'école. Il n'y avait pas une sensibilisation. Tout a été promulgué de toute rue. D'un seul coup, personne n'était préparé pour pouvoir accueillir la gratuité. Il y avait assez de manquements psychologiquement, il y avait assez de manquements.
Alors aujourd'hui, les directeurs d'école parlent souvent d'un manque à gagner. Hein. Il y a moins d'argent qui rentre dans leur caisse. C'est mécanique parce que l'État n'a pas compensé totalement le manque à gagner. Est-ce que les parents, du coup, malgré tout, doivent mettre la main à la poche pour l'école de leurs enfants?
Oui, bien sûr, c'est ça. Puisque, bon, ça a été promulgué, mais il n'y avait pas eu de mesures d'accompagnement en tant que tel. Il y avait insuffisance. Donc, les enseignants manquaient de matériel didactique.
Les manuels scolaires,
oui,
vous voulez dire.
Les manuels scolaires, la craie, les ensembles géométriques, même au niveau de l'équipement des infrastructures, telles que les bancs, les tables bancs. Même les infrastructures, parce qu'il y a un nombre d'enfants qui étaient restés à la maison. Il y a même des parents qui ont mis des enfants de jusqu'à 15 ans qui étaient restés à la maison, une fois que l'école a été gratuite. Parce que vous voyez, donc il y a un nombre, un pléthore même d'enfants qui se sont venus pour s'inscrire. Donc face à cette difficulté, les enseignants étaient confrontés à beaucoup de problèmes.
Ça veut dire que l'école est vraiment gratuite pour les parents, là, pour la rentrée par exemple?
Oui, bon, on est obligé de le dire, c'était des établissements qui étaient obligés d'instituer encore la cotisation parallèle, bien que l'État l'a défendu, parce qu'ils n'avaient pas eu de moyens pour pouvoir faire circuler le fonctionnement de l'école.
Ces cotisations parallèles, elles sont aussi importantes que lorsqu'on payait l'école officiellement?
Oui, bien sûr, parfois ça dépasse même le coût de l'écolage.
Est-ce qu'il y a des parents qui sont inquiets là pour la rentrée à l'idée de ne pas pouvoir payer ces cotisations parallèles pour leurs enfants?
Oui, ça dépasse parfois. Parce que ça leur permettait même de construire même des bâtiments scolaires, d'équiper en table banc. Donc parfois ça dépasse même le coût de l'écolage.
Bon, alors vous faites le lien entre les familles, les écoles et puis l'État. Votre réseau s'appelle Caleb Togo.
Caleb Togo, justement, c'est notre mission. Nous essayons de reporter ce qui ne va pas au niveau de l'école, au niveau des parents d'élèves, que nous essayons d'aborder au niveau de l'État pour l'heure.
Il y a du travail pour la rentrée. Bonne chance, Paul. Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir. Quant à vous qui nous écoutez, si vous voulez nous contacter pour passer dans l'émission, c'est simple, vous nous écrivez école@rfi.fr. Ce n'est pas le moment de nous lâcher, nous revenons juste après le journal avec un reportage sur les enfants autistes. Vous allez découvrir leur parcours du combattant pour apprendre, pour communiquer. Une équipe d'éducateurs dans le sud de la France vit avec eux en permanence pour leur permettre un jour de sortir de leur isolement. L'École des Savoirs, deuxième partie, le rendez-vous c'est dans 3 minutes maintenant.